American Horror Story, c'est une série qui a été créée en 2011 par Ryan Murphy et Brad Falchuk, qui étaient les créateurs de Nip Tuck, il y a longtemps maintenant. Et la série, elle est à chaque saison l'occasion d'investir un décor particulier. Il y a eu les maisons hantées dans la saison 1, les asiles dans la saison 2, et la saison 3 sur laquelle est centrée cette communication, c'est la Nouvelle-Orléans gothique des sorcières. Mais donc au-delà de ces particularités de décor, le format anthologique d'American Horror Story est surtout l'occasion de repenser le statut de la fin dans le récit sériel. Puisqu'en effet, contrairement au feuilleton traditionnel que Hélène Monet-Cantagrel, dans un texte qu'elle a consacré à American Horror Story, qualifie de forme longue et ouverte dont la fin est sans cesse reportée, l'univers diégétique de chaque saison d'American Horror Story n'est pas conçu du tout pour durer. Au contraire, il est programmé pour s'éteindre après 12 ou 13 épisodes donc à chaque saison. Donc chaque season final de American Horror Story a donc en théorie, vocation de clôture définitive. Donc, en dépit de ce format spécifique, American Horror Story semble cependant, au même titre que ses consoeurs feuilletonnantes, travailler par une série d'enjeux et de problématiques constantes qui font retour de saison en saison et qu'on peut qualifier de matrice, selon le terme employé par Guillaume Soulez dans La double répétition. Donc la série entend ainsi se placer continuellement du côté des opprimés, rendus invisibles par la société américaine, au premier rang desquels les femmes, notamment dans les trois premières saisons, et tout ça dans le but de ramener ces opprimés vers le centre du cadre. Donc la saison 1, Murder House, racontait les angoisses d'une femme au foyer bourgeoise, et la saison 3 se place clairement du côté de la minorité africaine-américaine, pour raconter la lutte de deux assemblées de sorcières, les Coven du titre de cette saison 3, l'une blanche et l'autre noire, dont les rivalités vont remonter à l'époque esclavagiste et rejaillir ici, dans la saison 3, dans le contexte de la Nouvelle-Orléans post-Katrina, qui est un décor qui est au centre de ma recherche doctorale et dans lequel la question des relations interraciales va être particulièrement saillante. Donc, compte tenu de ces enjeux matriciels et du statut exceptionnel de la conclusion de chaque saison, il est frappant, en fait, de constater que le dernier plan d'American Horror Story Coven, donc de la saison 3, évacue précisément le corps de l'unique sorcière noire survivante au profit d'un zoom cadrant progressivement en gros plan le visage blanc, blond et souriant de Cordelia, la sorcière interprétée par Sarah Paulson, visage star à la fois de la série, puisqu'elle est présente dans toutes les saisons, et visage star et désormais définitif, à la fin de la saison, des sorcières de la Nouvelle-Orléans. Donc l'objet de cette communication va être de questionner justement cette évacuation, au motif qu'elle semble entrer frontalement en contradiction à la fois avec les problématiques particulières de la saison 3 et plus largement avec la matrice de la série. Donc la question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est donc en quoi le plan final d'American Horror Story Coven s'organise-t-il moins comme une évacuation que comme un déplacement de la question des rapports ethno-raciaux travaillés par la saison, et quelles limites, bien sûr, peut-on trouver à cette stratégie de représentation ? Donc je propose de répondre à cette question en trois temps. D'abord en interrogeant la fonction du zoom avant, qui fait disparaître le corps de la sorcière noire pour ne plus cadrer que le visage fédérateur, on le verra, de Cordelia. Ensuite, en examinant la façon dont la question des relations interraciales va rejaillir dans le décor et dans la scénographie. Et enfin, en analysant l'héritage cinématographique dont est tributaire le gros plan de Cordelia et sa relation, toujours dialectique dans le contexte sudiste, avec des enjeux raciaux. Le premier mouvement de ce plan final, c'est le zoom sur le visage de Cordelia, qui est appelé à la fois par la question de la jeune fille dans le plan suivant, qu'est-ce qu'une sorcière suprême, et aussi par la réponse que lui fait Queenie, donc la sorcière noire, dont le corps va disparaître ensuite dans la trajectoire de la caméra. Donc, en évacuant de l'image le corps de cette sorcière, le zoom a d'abord pour ambition de parfaire, à mon sens, le blanchiment de la nouvelle communauté des sorcières vers lequel semble vraiment tendre l'ensemble de la séquence finale. En ce sens, il va s'inscrire dans le prolongement du plan large légèrement surplombant qui précède, vous l'avez ici à l'écran, et au sein duquel les visages blancs l'emportent très clairement sur les autres, instaurant même une forme de hiérarchie, puisque la peau claire de la jeune fille asiatique qui prend la parole va repousser vers le fond du champ le seul visage noir du plan qu'on distingue à peine et qui est de fait réduit au silence. Elle est donc au quatrième rang, là, au centre de l'image. Donc cette façon de recouvrir le noir par le blanc agit pour moi comme une stratégie de dissimulation. Les visages émerveillés des jeunes sorcières blanches et le sourire éclatant final de Cordelia viennent en effet invisibiliser le violent massacre du sabbat africain-américain dans l'épisode 9, donc 3-4 épisodes auparavant, et dont Queenie va être une des seules survivantes. Donc, outre qu'elle fait écho aux stratégies mises en place par Hollywood pour faire oublier l'esclavage derrière les opulentes maisons coloniales et les magnifiques belles du Sud des films de plantation des années 30 et 40 à Hollywood, cette rhétorique de dissimulation, elle est également facilement rattachable au traitement médiatique de l'après-Katrina, puisque passé l'horreur des premiers jours, passé cette fameuse semaine de la crise, donc la semaine qui a directement suivi l'ouragan, les différents titres de presse, locaux et nationaux, ont vite entrepris de dissimuler les corps principalement noirs et pauvres des victimes de l'ouragan derrière des images festives et folkloriques du Carré français, le quartier touristique de la ville, qui était donc plus à même de faire revenir les touristes puisque la Nouvelle-Orléans vit essentiellement du tourisme. Symptomatiquement, d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater à quel point American Horror Story Coven va être polarisé hein, autour des deux quartiers dont on a le plus parlé après Katrina. Le sabbat blanc se trouvant dans le carré français, ce qui est assez logique puisque c'est le carré qui est le plus visible dans les représentations cinématographiques et télévisuelles de la Nouvelle-Orléans. Et le sabbat noir, et c'est là qu'on est plus en prise avec le contexte post-Katrina, lui se trouve dans l'inquiétant Lower Ninth Ward. C'est le quartier, un quartier africain-américain pauvre qui a entièrement été noyé par l'ouragan et dont la reconstruction aujourd'hui n'est toujours pas achevée. Alors ce mouvement de blanchiment de la communauté entamé par le Zoom va déboucher logiquement sur une forme d'incarnation vraiment paroxystique de la blanchité, donc un visage de femme qui rassemble toutes les caractéristiques des idéaux de radiance blanche selon l'expression qu'emploie Richard Dyer dans son ouvrage White Essays on Race and Culture. Donc Cordelia, elle est blonde, elle est radieuse, elle luit plus qu'elle ne brille, pour reprendre encore une expression de Dyer. En anglais, c'est « glow rather than shine ». Elle est donc une source de lumière plus qu'une surface réfléchissante. Et ce visage idéal, dont le gros plan souligne ici le caractère exceptionnel, vaut également pour sa capacité à contenir tous les autres. Comme le démontre encore une fois Dyer dans White, le visage de la femme blanche l'installe dans la société occidentale comme une forme absolue du féminin, un idéal dont chaque femme, quelle que soit sa couleur de peau, doit théoriquement vouloir s'approcher. Alors bien qu'elle soit extrêmement problématique, on est d'accord là-dessus, cette capacité de la femme blanche à faire utopie commune met à jour en fait ses vertus fédératrices. Le discours que fait Cordelia à l'intention de sa nouvelle protégée en appelle clairement à une forme aseptisée de girl power. On est presque dans une chanson des Spice Girls. Elle dit « Jusqu'à présent, nous avons survécu, mais je sais dorénavant que nous pouvons faire plus. » Donc sa victoire finale semble vouloir, dans la séquence, semble valoir pardon, pour toutes les femmes, ou du moins, bien sûr, pour toutes celles qui peuvent prétendre lui ressembler, d'où l'évacuation par le zoom du corps de Queenie, qui est noire et qui est obèse et qui est donc une marque d'altérité trop franche, et d'où également la mise en avant de la jeune fille asiatique qui prend la parole, dont la peau claire est plus proche de cet idéal fédérateur. Alors, il faut souligner cependant que cette rhétorique un peu universaliste, attachée au féminin, n'est pas seulement imputable à cette séquence finale. C'est un mouvement vers lequel tend toute la saison, dès lors que les deux anciennes meneuses des sabbats blancs et noirs, donc Fiona, qui est jouée par Jessica Lange, qui est la mère de Cordelia, et Marie Laveau, qui est jouée par Angela Bassett et qui est inspirée d'une figure de femme historique à la Nouvelle-Orléans, qui est une reine du vaudou. Donc ces deux femmes, elles vont décider de mettre leurs différents historiques de côté, et donc leurs différents ethno-ratios, pour s'allier en tant que femme contre un ennemi commun, c'est-à-dire un groupe d'hommes rétrogrades, essentiellement blancs, dont le hobby est de chasser et massacrer des sorcières. Tout ça toujours dans l'épisode 9. Donc Fiona, dans cet épisode, dira ainsi à Mary « Arrêtons ces querelles minables, nous avons de plus gros problèmes à régler. Façon pour cette saison 3 de faire valoir la primauté du paramètre de genre et de minimiser brutalement le paramètre racial, pourtant central dans la dramatisation des relations entre les personnages dans cette saison, puisque les grandes scènes d'horreur grotesques dont la série, toute saison confondue et coutumière, sont ici en majorité des scènes de torture d'esclaves. Et cette façon de recouvrir le paramètre racial par le paramètre genré, c'est aussi encore plus largement le mouvement global de la série, du moins jusqu'à la saison 3, puisque l'oppression des femmes que dépeignent la saison 1 Murder House et la saison 2 Asylum est en effet une oppression de femmes blanches et uniquement blanches. Et donc en ajoutant le paramètre racial, la saison 3 entend peut-être combler un manque, et ce bien sûr non sans maladresse. Donc, a priori, évacuée de l'image avec la disparition du corps de Queenie, la question des relations interraciales qui structure cette saison 3 d'American Horror Story va en fait rejaillir dans le décor, comme on va le voir à présent. Alors, en effet, le lieu où vont être dramatisées les sorcières, rassemblées les sorcières avec son hall immense et surtout son escalier central, en appelle directement au souvenir de la maison coloniale, qui est un trope sudiste important, qui, dans l'iconographie hollywoodienne, sert de référentiel ou d'entrepôt à la mémoire nationale, comme le signale dans cette citation Deborah Barker et Catherine McKee. Donc pour Tania Tukunen, qui a écrit tout un ouvrage sur les Belles du Sud et qui s'appelle « Demain sera un autre jour », la maison coloniale, je la cite là, « suffit à elle seule à révéler l'état dans lequel se trouve le Sud à tel ou tel moment de son histoire ». Donc déplacé ici dans le contexte spécifique de la Nouvelle-Orléans post-Katrina, le spectre de la maison coloniale qui sert de refuge aux sorcières prend en charge la rivalité noir-blanc qui traverse tout le contexte médiatique de l'après-tempête, les noirs, premières victimes de l'ouragan, luttant pour rester visibles dans l'espace public, et les blancs luttant justement pour les recouvrir. Donc, si cette dernière séquence n'est pas à proprement parler en noir et blanc, vous avez pu le constater, on ne peut néanmoins s'empêcher de noter le caractère presque exsangue de la maison coloniale, qui dans les films est d'ordinaire flamboyante et presque baroque. Vous avez trois exemples ici. Autant en emporte le vent de Victor Fleming, l'esclave libre de Raoul Walsh et Django Unchained de Tarantino. Alors, en réponse peut-être au massacre sanglant du sabbat africain-américain dans l'épisode 9, et sur lequel repose en partie la victoire de Cordelia à la tête des sorcières de la Nouvelle-Orléans, la maison coloniale ici semble s'être complètement vidée de ses couleurs. Et cet achromatisme brutal du décor, sur l'image duquel va se clore American Horror Story Coven, prend donc une couleur politique. Outre qu'il rappelle les films sudistes hollywoodiens des années 10 comme l'inclassable Naissance d'une nation de Griffith en 1915, ce décor noir et blanc rejoue clairement les rivalités ethno-raciales dont l'histoire sudiste est parcourue et que le contexte complexe de l'après-Katrina n'a finalement fait que réactualiser. Donc ici, à mon avis, la victoire chromatique écrasante du blanc sur le noir, va prolonger finalement l'idée qui était défendue par le zoom du départ, d'une évacuation des enjeux raciaux au profit d'une conclusion fédératrice. Alors, au-delà de la palette chromatique du décor, la question matricielle des rapports interraciaux va rejaillir dans un motif fondamental du cinéma sudiste, qui est l'escalier. Pour Tania Tukunen, encore elle, le motif de l'escalier est un lieu privilégié des dramatisations, et il s'envisage, je la cite ici, comme une véritable ossature thématique dans plusieurs films sudistes classiques des années 30, et donc il facilite, en ce sens, la mise en évidence des rapports de pouvoir. Donc, dans le décor, vous le voyez ici, l'escalier occupe une place qui est vraiment centrale. C'est grâce à lui que l'entrée dans le cadre de Cordelia a été dramatisée dans les plans précédents, et tandis que sa position sur les marches, légèrement donc en hauteur, la signale comme supérieure hiérarchique à l'intention de la nouvelle assemblée qu'on a pu voir dans le plan précédent. Alors, si la position de Queenie, que vous voyez ici, donc à droite, à gauche, enfin bref, la sorcière noire. Oba, donc elle est au bas de l'escalier, mais aux côtés de Cordelia. La place, du coup, bien au-dessus des sorcières novices, au même titre donc que la sorcière blanche qui est ici sur la droite. Le mouvement, en fait, qui accompagne sa réponse à la question de la jeune fille asiatique, qui était « What's a Supreme ?», vient, pour moi, démentir hein, cette hiérarchie. Le fait qu'elle lève les yeux, comme pour embrasser du regard la position surplombante de Cordelia, la réassigne dans une forme de position d'infériorité, d'autant plus franche que par rapport à Cordelia, elle est au bas de l'escalier. Et ce mouvement, hein, Queenie qui lève la tête, est d'autant plus intéressant qu'il est l'exact inverse de la réaction de la sorcière blanche qui, elle, baisse discrètement la tête. Donc là, pour moi, où le mouvement de la deuxième sorcière connote une soumission qui serait unilatérale, celui de Queenie indique une forme d'admiration et de loyauté qui est problématique parce qu'elle n'est pas sans rappeler le regard que portaient les esclaves noirs sur leur maître blanc dans les films de plantation hollywoodiens. Ce déplacement donc de la question des relations interraciales dans un décor et des motifs hérités du cinéma sudiste hollywoodien nourrit enfin, c'est le troisième temps de la communication, le portrait de Cordelia comme belle du Sud, figure centrale hein, des récits sudistes américains, dont la construction, autant que la déconstruction, est toujours en prise, à la fois avec le gros plan et avec des enjeux ethno-raciaux. Avant ce dernier épisode, pour recontextualiser un peu, Cordelia, au sein de l'Assemblée des sorcières, n'était cantonnée qu'à une position subalterne. Elle est botaniste, donc elle est en charge du jardin et de la serre, mais surtout, elle vit dans l'ombre de sa mère, Fiona, interprétée par Jessica Lange, que vous avez vue tout à l'heure, et elle n'exerce, du coup, aucune autorité qui soit vraiment conséquente. Mais, devenue la sorcière suprême, à la place de sa mère, qui meurt, sa victoire va l'installer également comme maîtresse de la maison coloniale et donc comme belle sudiste. Or, il est saisissant de constater avec ce plan final que la construction de Cordelia comme belle du Sud va passer par le gros plan. Cette échelle de plan appelle en fait indubitablement le souvenir de la première belle de l'histoire du cinéma sudiste hollywoodien. Donc c'est Elsie Stoneman, Lillian Gish dans Naissance d'une nation de Griffith, dont le poids idéologique dans ce film tenait précisément au gros plan. Comme le signale Tania Tukunen hein, dans son analyse vraiment précise du long métrage dans Demain sera un autre jour, l'un des traits les plus marquants du discours visuel de Griffith, opposé au métissage racial, reste son attachement compulsif à la suprématie de la race blanche, qui passe par sa fixation sur des portraits de femmes. Donc c'est grâce au gros plan que Gish, dont le personnage est pourtant nordiste dans le film, dans Naissance d'une nation, en vient à incarner la cause perdue sudiste et par extension l'ensemble des causes idéologiques que celle-ci défend. Dans un texte qu'il consacre à l'actrice, Richard Dyer écrit ainsi, vous avez la citation là à l'écran, « Gish, qui incarne Elsie, représente la féminité blanche que le Sud doit gagner pour lui-même. Elle incarne l'idéal que le Sud, tel qu'on nous le représente, se bat pour défendre. » Donc dans cette optique, les gros plans de l'actrice sont fondamentaux. Ils permettent à l'idéologie raciale extrêmement problématique véhiculée par le film de s'imposer d'un point de vue esthétique et de devenir presque plus tolérable. Alors, bien sûr, les intentions esthétiques d'American Horror Story ne sont pas du tout comparables à celles de Griffith dans Naissance d'une nation, puisque la série est conçue essentiellement pour un format dans lequel le gros plan est visuellement la norme, comme le rappelle Horace Newcomb. Mais la présence du gros plan dans cette séquence finale rappelle cependant à quel point la construction de la belle sudiste est en prise avec des enjeux ethno-raciaux. Preuve, encore une fois, s'il en est, que la question des relations interraciales n'est pas strictement évacuée par le zoom et la disparition du corps de Queen. Grâce, en fait, à ces visages de femmes blanches et radieuses, d'autant plus puissants qu'ils sont historiquement conçus pour être en noir et blanc, la belle sudiste a pu se propager comme emblème par excellence de la suprématie blanche, dont la pureté morale et raciale devait être protégée. Alors, protégée de quoi ? De la soi-disant sauvagerie et violence des esclaves noirs affranchis chez Griffith, et peut-être, dans American Horror Story, de la magie noire subversive des sorcières africaines-américaines, je le rappelle, toutes décimées au terme de la saison. Alors, en dramatisant la victoire d'une femme blanche à la tête des sorcières de la Nouvelle-Orléans, et compte tenu de l'héritage du gros plan dans l'histoire des formes cinématographiques sudistes hollywoodiennes, le plan final d'American Horror Story corrobore une hypothèse qui est faite par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux, selon laquelle, je les cite, « certains agencements de pouvoir ont besoin de la production de visages ». Pour autant, le visage déjà hyper politique de Cordelia en cache, à mon avis, un autre, non moins problématique. Alors, pour comprendre comment je fais ce rapprochement, il faut rappeler ici la violence du gros plan pour ces différents théoriciens, Deleuze, Balak, Epstein, la cruauté de la fragmentation du corps qu'il suppose et la brutalité de son surgissement sur les écrans de cinéma, où l'effet a longtemps été vraiment spectaculaire. Or, précisément, le principe d'hyper-fragmentation du corps que sous-tend le gros plan appelle, dans le cas précis d'American Horror Story, le souvenir d'un autre visage de la série, ou devrais-je plutôt dire d'une autre tête, celle qui, justement, selon Deleuze dans Logique de la sensation, doit surgir sous le visage. Donc Cordelia, en effet, dans la série, n'est pas la seule belle du Sud. Jusqu'au dernier épisode, cette fonction, elle est plutôt prise en charge par la décadente Delphine Lalaurie, qui est incarnée par Katie Bates, qui est une esclavagiste inspirée d'une figure là aussi historique, particulièrement cruelle, puisqu'elle avait pour habitude de torturer ses esclaves, puis de se baigner dans leur sang pour rester jeune. Et donc dans la série, ce personnage, il va être maudit avant la guerre de sécession, condamné à l'immortalité et enterré vivante par la reine vaudou jouée par Angela Bassett, par Marie Laveau. Et donc elle est ressuscitée au début de Coven par les sorcières blanches pour servir de monnaie d'échange dans le conflit larvé qui les oppose au sabbat noir. Et à un moment du récit, Delphine va être décapitée par Queenie, mais parce qu'elle est immortelle, elle devient donc une tête sans corps, dont le souvenir vient littéralement défaire, pour reprendre là encore un terme deleuzien, le visage rayonnant et pur de Cordelia, notamment en le reconnectant avec le scandale historique de l'esclavage, que la série, sur un mode un peu grotesque et grand guignol, limite camp, veut réinstaller comme honte nationale. Donc, pour preuve, ces scènes ubuesques de l'épisode 9, où la tête de Delphine est contrainte par Queenie à regarder l'intégrale de Roots et à écouter Oh Freedom et autres hymnes noirs à la liberté, et elle finit devant tous ses ouvrages à pleurer et à se repentir au nom de tout son peuple. Donc, American Horror Story réduit, en fait, ces deux figures de belles sudistes, l'une aussi triomphante que l'autre était dégénérescente, à des têtes sans corps, pas par les mêmes moyens, mais au service d'intérêts communs. Puisque que ces visages médiatisent finalement les capacités fédératrices du blanc, ou qu'ils en soulignent la grandeur en rendant visibles ses qualités de rédemption, ce qui est une stratégie éminemment sudiste, hein, on voit ça chez Faulkner à peu près tout le temps, ces deux visages affirment la supériorité de la blanchité dans une saison qui voulait pourtant faire des enjeux ethno-raciaux son centre dramatique. Alors, en conclusion, l'évacuation de la question des relations interraciales que suggère le mouvement final de la saison 3 d'American Horror Story révèle en fait, comme j'ai essayé de le démontrer, des stratégies de représentation qui sont beaucoup plus complexes. La problématique matricielle de American Horror Story Coven semble plutôt se fondre dans les décors et surtout ressurgir en creux dans l'héritage hollywoodien que convoque le gros plan du visage de Cordelia, sur lequel se clôt définitivement le récit. Donc au lieu d'être pensé frontalement, comme dans la douzaine d'épisodes qui précèdent ce season final, les rapports interraciaux intègrent ici des enjeux plus formels qui posent de fait la question d'une morale de la représentation. Alors à mon sens, il faut interroger ce déplacement qui a tôt fait en fait de devenir une dissolution. La transformation finale subtile de la problématique matricielle de la série en une question qui relève moins de la narration que de la mise en scène, a le défaut, dans ce cas précis, hein, c'est pas le cas tout le temps, mais ici, d'invisibiliser les questionnements de la saison autour des relations interraciales, de le rendre souterrain, et surtout de ne l'envisager que dans une perspective blanche. Queenie va être ainsi réduite à une simple figure d'approbation, qui est d'autant plus surprenante que dans la série, le personnage est tout au long des 13 épisodes, travaillée, traversée par des revendications communautaires et identitaires qui sont très franches, et elle met d'ailleurs toujours un point d'honneur à se distinguer des autres sorcières blanches de l'Assemblée du fait même de sa couleur de peau. D'ailleurs, elle rejoint à un moment du récit le sabbat africain-américain, et elle ne réintègre l'équipe de Cordelia qu'une fois que le sabbat noir a été décimé. Donc cette façon d'envisager des questionnements en prise avec des enjeux ethniques dans une perspective qui est unilatéralement blanche renvoie d'une part à une pratique narrative qui consiste à légitimer constamment les expériences des individus racisés par un regard ou un point de vue non blanc. On a vu ça aussi dans Orange is the New Black, hein, qui est un cas un peu canonique pour ça. Et en outre, cette tendance à blanchir par le point de vue les récits des communautés racisées renvoie clairement à un besoin pour les blancs, sinon de justifier leur attitude et celle de leurs ancêtres, du moins de s'en repentir. Donc American Horror Story Coven, ainsi que le démontre cette séquence finale, a donc moins pour vocation de remettre au centre du cadre un regard africain-américain sur l'histoire et sur le présent, que d'expier finalement la culpabilité ressentie par les blancs face à l'histoire américaine, une attitude que Robin DiAngelo, qui a beaucoup travaillé sur la blanchité, résume sous le terme de « fragilité blanche ». Donc à la suite de Molly Haskell, qui se demande dans La femme à l'écran ce qu'il reste d'un film hollywoodien à portée féministe après une fin patriarcale qui serait imposée par les studios, il faut se demander ce qui reste d'American Horror Story Coven après le blanchiment de son mouvement final. Alors, en dépit de ses défauts, la beauté de cette saison 3 reste, à mon sens, dans sa capacité à connecter les problématiques raciales de l'après-Katrina avec l'histoire américaine et notamment le passé esclavagiste des États-Unis. Mais, et c'est important, il faut garder à l'esprit les limites de ses intentions, qui ne sont pas, j'ai essayé de le montrer, le seul fait de la séquence finale. Si American Horror Story Coven a le mérite de poser frontalement cette question des relations noir-blanc depuis l'époque esclavagiste et jusqu'au contexte spécifique de l'après-Katrina, le discours qu'elle tient à l'encontre de la minorité africaine-américaine n'est malgré tout pas sans poser problème et, bien sûr, ne déjoue pas tous les stéréotypes. Merci de votre attention. Merci.